Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite, présenté par l'agence Pure Commerce. Mon nom est Antoine Gagné et mon objectif est de vous aider à bâtir un commerce élite. Et cette semaine, on parle des 8 éléments primordiaux qu'on regarde avant d'investir dans une boutique en ligne. De la marge de profit brute à la valeur long terme d'un client, on vous explique les points essentiels à bien analyser avant un achat. Bonne écoute! Après avoir fait 2 investissements dans des boutiques en ligne dans les 24 derniers mois, on peut vous dire qu'on a appris beaucoup de choses. On sait maintenant exactement quoi ne pas faire. Et on sait également quelles boutiques en ligne ont réellement de la valeur comparativement à d'autres. On vous explique les 8 points fondamentaux lors du podcast. Bonne écoute! Donc, bienvenue à tous sur le podcast Commerce Élite. Et aujourd'hui, je repars pour un épisode en solo. Car récemment, sur un autre podcast qu'on anime avec Jonathan Léveillé le jeudi, donc c'est le podcast Hypercroissance. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, le lundi, on fait des entretiens avec des entrepreneurs à succès qui sont passés de croissance à hypercroissance. Et le jeudi, on fait des discussions d'affaires ensemble. Et quand je dis ensemble, je parle de Jonathan Léveillé et moi qui possède une autre organisation dans le domaine du service. Et on parlait des éléments qu'on regarde avant d'investir ou d'acheter une autre organisation. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode encore plus détaillé sur Commerce Élite, sur les éléments qu'on considère fondamentaux avant de vouloir faire un investissement dans une boutique en ligne. Ceci étant dit, je tiens à vous le mentionner, je ne suis pas un investisseur avec énormément d'expérience. On a fait 2 investissements jusqu'à présent dans le domaine e-commerce qui, en toute transparence, n'ont pas été des énormes succès jusqu'à maintenant, mais ça a été des bons tests. Et ces expériences-là nous aident maintenant à regarder davantage ce qu'on veut faire dans le futur, dans nos futurs investissements, parce qu'on a toujours envie d'aller acheter des boutiques en ligne pour bien comprendre l'environnement des commerçants et pour, bien entendu, par la suite, être capable de bâtir des commerces. Donc, avec l'expérience qu'on a apprise jusqu'à maintenant, voici 8 éléments, et peut-être que je ferai d'autres épisodes dans le futur, sachant que d'autres éléments risquent de s'ajouter. Mais voici tout de même 8 éléments qu'on va regarder avant de faire un futur investissement. Et ça peut également donner des idées aux gens qui nous écoutent aujourd'hui de se dire, est-ce que mon e-commerce, est-ce que ma boutique en ligne possède ces 8 éléments? Et si certains d'entre eux ne sont pas présent dans mon organisation, comment je peux améliorer ce que je fais au quotidien pour intégrer ces différents éléments dans ma structure interne. Donc, le premier élément, une marge de profit élevée. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est une marge brute au-dessus de 60 à 70 %. Et je vous dis ça parce que s'il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que les coûts pour faire de la publicité vont continuer d'augmenter. Et plus que les coûts augmentent, vous aurez compris, plus que la possibilité d'avoir un coût d'acquisition bas devient de plus en plus difficile, c'est-à-dire si les coûts pour faire de la publicité augmentent, par extension, vos coûts d'acquisition vont augmenter du même coût. Donc, votre marge de profit brut doit être élevée. Si vous travaillez sur des marges de profit brut qui varient entre 30 et 35 %, ça va être excessivement difficile, du moins au niveau publicitaire, à bâtir une organisation qui va être capable d'être pérenne sur le long terme. Donc, nous, ce qu'on regarde maintenant quand on veut faire des investissements futurs, c'est est-ce que la marge de profit brute de l'entreprise dans laquelle on voudrait peut-être faire un investissement est élevée? Donc, si on vend un produit 50 $, combien ça nous coûte pour avoir le produit, faire la manufacture et par la suite l'expédier au client? Si ça nous coûte ici plus que 25 $, ce n'est pas du tout intéressant. Si c'est aux alentours de peut-être 8 à 12 $, c'est là qu'il y a vraiment de la place pour aller faire des campagnes de pub et, si possible, faire de la profitabilité sur le moyen et long terme. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va regarder. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est s'il y a un potentiel d'abonnement intégré ou s'il y a un réachat constant du produit. Et ça, ça vient d'une expérience qu'on vient de vivre. On avait une boutique en ligne qui avait... Bon, on a toujours cette boutique en ligne au moment où on se parle. C'est d'ailleurs celle qu'on a documentée sur le podcast jusqu'à maintenant, qui vend des produits, qui vend certains produits, mais des produits que tu vas acheter une fois. et on n'a jamais été capable de trouver d'autres produits par la suite où notre clientèle voulait réacheter. Donc, dans ce contexte-là, on était face à une organisation qui avait un bon tunnel de vente, un produit qui était acheté, mais un réachat quasiment inexistant. Donc, ça devient excessivement difficile parce que si la publicité du jour au lendemain fonctionne moins, si le contexte socio-économique est plus complexe, vos clients risquent d'arrêter d'acheter vos produits, surtout si ce sont des produits de commodité, et ça crée l'infrastructure économique excessivement difficile. C'est difficilement viable même sur le long terme. Et donc, si on est capable d'intégrer ce réabonnement-là, c'est fantastique. Si on ne peut pas le faire, est-ce qu'il y a un réachat constant? Je pense ici à des produits dans le domaine alimentaire, dans le domaine cosmétique. C'est-à-dire qu'à un certain point, ces produits-là, on en a besoin d'en racheter. Donc, ça peut être des organisations quand même assez intéressantes à investir. Numéro 3, une entreprise qui va opérer sur un delta d'au moins 1 sur 4. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est un enjeu qu'on voit avec beaucoup de clients chez Pure Commerce. C'est-à-dire, c'est des organisations qui vont faire un certain volume de revenus, mais la majeure partie de leurs revenus va provenir de clients nouveaux et non de clients existants. Maintenant, c'est pas mauvais d'aller chercher des nouveaux clients. Au contraire, on a besoin de le faire. Mais si le nombre de nouveaux clients qu'on va chercher est plus important que les revenus qu'on fait avec des clients existants, surtout si notre organisation existe depuis plusieurs années, c'est là qu'on a un souci. Donc, ce qu'on veut faire, c'est regarder pour des organisations qui vont opérer sur un delta d'au moins 1 sur 4, c'est-à-dire pour chaque dollar de revenus de nouveaux clients générés, je veux en générer au moins 4 avec des clients existants. Si on n'a pas cette infrastructure-là devant nous, ça peut être complexe. Bien entendu, ça peut être un peu moins, ça peut être 1 sur 3 ou ça peut même être 1 sur 2, mais ça ne doit pas être 1 sur 0,75 parce que dans un contexte comme ça, chaque acquisition de nouveaux clients que vous allez faire n'aura pas un delta intéressant sur le futur. Donc, on doit toujours penser qu'une organisation, ce n'est pas simplement une seule transaction, c'est des transactions qui doivent opérer pendant excessivement longtemps. Numéro 4, la diversité au niveau des canaux publicitaires, c'est-à-dire qu'encore une fois, on ne veut pas être dépendant d'un seul produit, mais on ne veut pas être dépendant également d'un seul canal publicitaire, c'est-à-dire que si tout votre investissement est sur Facebook, mais il y a absolument rien qui fonctionne sur Google, sur TikTok, sur Pinterest, c'est complexe. On doit avoir une bonne diversité, autant au niveau Meta que Google, que TikTok, que Pinterest, et c'est comme ça qu'on va commencer à construire un petit peu ce qu'on considère chez Pure Commerce, un commerce élite. Donc, diversité au niveau des canaux publicitaires, excessivement important. Numéro 5, une présence organique qui est forte. Et là, je ne parle pas ici simplement de publier sur TikTok, de publier sur Facebook. Je parle de présence organique également sur Google. C'est-à-dire que est-ce qu'on est capable de générer des revenus de manière 100% organique avec notre SEO? Est-ce que ça, c'est possible? Et si oui, quel est le pourcentage de ces revenus générés? Est-ce que c'est 10% de notre chiffre d'affaires global? Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 5%? Bref, on se doit au moins d'avoir des revenus qui vont provenir de notre présence organique. Donc, si demain matin, tous les canaux publicitaires ne fonctionnent plus, est-ce qu'on continue à générer des revenus de nouveaux clients avec notre présence organique? Si la réponse est oui, fantastique, organisation intéressante, parce que ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Avoir plus de difficultés avec des canaux publicitaires quand il y a des changements d'algorithme. Les gens l'ont vu avec iOS 14. Il y a également certains bouleversements au moment où on se parle avec iOS 17. Ça change la donne. Et ce n'est pas prêt d'arrêter avec toute la privatisation des données qui commence à s'installer dans l'univers publicitaire. Donc, on se doit, dans un contexte comme ça, d'être capable d'aller chercher, pas des revenus, mais des revenus de nouveaux clients sans avoir à investir continuellement des dollars en publicité. Donc, ça, c'est un point excessivement important. Numéro 6, un brand, une organisation qui n'est pas 100% dépendante du propriétaire ou d'un acteur spécifique, c'est-à-dire si le brand est 100% relié à un personal branding d'une autre personne, c'est bien, ça génère des revenus, mais c'est difficilement transférable et ça peut faire peur également pour un investisseur comme moi d'aller mettre de l'argent dans cette organisation-là parce que si cette personne-là, du jour au lendemain, n'est plus intéressée à promouvoir l'organisation, a d'autres passions, d'autres envies ou même s'il y a un enjeu qui se déroule avec cette personne-là, ça l'arrive des fois malheureusement, des crises qui peuvent se dérouler, eh bien là, automatiquement, l'organisation va être impactée. Donc, on se doit de regarder si l'entreprise est 100% dépendante d'un personal branding. Si c'est le cas, c'est dangereux. Il faut trouver des manières d'inverser un peu la tendance. Il y a plusieurs manières de le faire, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus qu'une personne qui va promouvoir le brand. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait dans notre groupe d'organisation. Au moment où on se parle, on invite et on éduque même nos différents employés à publier du contenu sur LinkedIn. On les invite sur les différents podcasts pour humaniser au maximum l'organisation avec plus qu'une personne. Parce que de cette manière-là, on n'est pas simplement dépendant d'Antoine Gagné, on n'est pas simplement dépendant d'un autre de mes collègues qui se nomme Antoine Dalmas, Bref, on a plusieurs personnes qui viennent promouvoir l'organisation. Donc, si l'entreprise, le commerce en ligne est uniquement dépendant d'un personal branding, c'est dangereux. On veut davantage investir et on trouve que c'est davantage intéressant une marque qui a son propre brand, mais qui, à l'intérieur de son propre brand, on voit plusieurs personnes qui viennent parler, qui viennent faire du contenu. Ça, ça nous donne beaucoup plus confiance parce que de cette manière-là, on est capable de limiter les risques. Numéro 7, diversité des produits. Ça, ça serait peut-être le deuxième plus gros apprentissage que j'ai fait avec la dernière boutique en ligne qu'on a achetée. C'est-à-dire, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, la diversité des produits est intimement reliée au potentiel de réachat de vos clients. C'est-à-dire que si vous avez simplement un produit qui malheureusement est un produit qu'on achète une fois, vous aurez compris, la valeur long terme de vos clients sera inexistante. Donc, il doit y avoir ultimement une diversité au niveau des produits et également une complémentarité. C'est-à-dire qu'après qu'une personne ait acheté le produit A, est-ce que le module d'ascension est simple pour que la personne achète le produit B, le produit C, le produit D? Donc, cette boutique en ligne-là doit avoir une diversité au niveau des produits. S'il n'y a pas de diversité, c'est là que ça peut être très dangereux. On vient littéralement de le vivre dans les 12 derniers mois. Et au-delà d'avoir une diversité au niveau des produits avec ce qui se déroule aujourd'hui, on doit avoir une équipe qui est capable d'itérer sur les produits du futur et pas nécessairement seulement itérer de manière manufacturière. C'est-à-dire, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une équipe R&D qui fait du design industriel continuellement pour créer des nouveaux produits. Mais est-ce qu'on a une équipe qui est continuellement en train de sourcer des nouveaux produits avec des manufacturiers outre-mer? Est-ce qu'on est tout le temps en train de regarder un petit peu ce qui fonctionne sur le marché? Bref, on ne peut pas simplement avoir une équipe de direction pour une boutique en ligne avec des gens de marketing. Ça, on s'en est rendu compte. Le marketing, c'est important, mais à la fin de la journée, il y a une chose qu'il faut toujours se rappeler. Product wins. Les bons produits vont gagner. Et si vous avez une belle équipe de marketing, mais aucune diversité au niveau des produits, aucun processus d'itération constant pour aller chercher des nouveaux produits à intégrer à votre boutique en ligne, moi, je considère que c'est dangereux parce que les produits, plus souvent qu'autrement, ils ont une date de péremption. Il y a tout le temps une nouvelle chose qui va arriver et vous devez continuellement prévoir un coup d'avance et avoir des nouveaux produits. Et le huitième point que j'ai noté, et comme je vous ai dit, peut-être qu'il y aura un deuxième, un troisième épisode comme ça parce que d'autres points vont nous sauter aux yeux à travers le temps. Est-ce qu'il y a un potentiel de retour très bas? C'est-à-dire que si vous avez une boutique en ligne qui vend des souliers ou qui vend des vêtements, vous allez le voir, les potentiels de retour sont assez élevés. Donc, vous allez investir beaucoup de dollars en marketing pour faire promouvoir la marque. Les gens vont l'acheter, vont recevoir les souliers, vont recevoir les vêtements et peut-être qu'ils vont vouloir retourner le tout parce que finalement, ça ne leur fait pas. Donc, est-ce que la marque dans laquelle on investit a un potentiel de retour qui est bas? Ça, c'est un huitième point que je regarde. Et souvent, ces organisations-là, ça pourrait être des organisations qui vont avoir les huit points que j'ai mentionnés, des organisations dans le cosmétique. Vous allez pouvoir le voir avec les huit points qui ont été dits. Répond à la majeure partie des points que j'ai mentionnés ici aujourd'hui. Donc, peut-être que ce sera un investissement d'ailleurs dans le futur. C'est tout aujourd'hui pour le podcast Commerce Elite. J'espère que vous avez aimé cette analyse qu'on a fait qui est reliée à des expériences qu'on a eues vraiment dans les 12 derniers mois. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Elite.